Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique, bienvenue sur Point d'Orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles de la musique sacrée et je suis d'autant plus heureux que l'on va continuer le travail, l'écoute formidable que nous avions commencé la semaine dernière en parlant du Miserere d'Allegri, l'une des plus grandes pièces jamais composées pour les chœurs. Et je vous avais dit que nous allions concevoir une sorte de diptyque d'écoute entre le Gregorio Allegri, sa version du Miserere, et une bien plus contemporaine, celle de Macmillan, que nous allons entendre tout à l'heure. Mais avant de vous proposer cette deuxième écoute que je vous ai promis la semaine dernière, vous êtes donc en haleine, je l'espère, comme moi, eh bien je voulais vous proposer une autre petite mignardise en guise d'apéritif, tout simplement, un morceau d'un immense compositeur qui là aussi va reprendre la première strophe du Miserere Mei. Il s'agit de Henry Purcell, qui est né le 10 septembre 1659 et qui est mort le 21 novembre 1695 à Londres. C'est l'un des plus grands compositeurs et musiciens baroques anglais et également de toute la musique occidentale. Immense monsieur qui a composé nombre de chefs-d'œuvre tant dans la musique sacrée que dans la musique profane. C'était notamment un homme de théâtre et il a écrit beaucoup de choses sacré. Il faut dire qu'il était également organiste de l'abbaye de Westminster, un poste bien entendu très prestigieux qui lui a conduit à faire beaucoup de choses, beaucoup de compositions pour l'église. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de référence qu'il va être fait à des tas de périodes presque obligées pour les compositeurs d'église, et le Miserere Mei en fait bien entendu partie. Et alors vous me direz, pourquoi est-ce que je vais vous faire écouter du Purcell? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans quelque chose de trop différent par rapport à Gregorio Allegri ou bien à ce que nous allons entendre tout à l'heure avec Macmillan? Eh bien, en fait, non, pas du tout. Il s'agit de vous faire une sorte de petite piqûre de rappel de ce que je vous avais dit la semaine dernière. Vous vous souvenez, je vous avais dit que le Miserere d'Allegri, il était très particulier parce qu'il était écrit dans le style antico. Je vous avais dit que le style antico, le style antique, quand il était fait référence à ce style dans la musique sacrée, c'était une référence au chant de Palestrina. Vous savez, Palestrina, c'est ce grand compositeur de la Renaissance qui était à Rome, qui était maître de chapelle à peu près partout où il fallait, hein, notamment Sainte-Marie-Majeure, la basilique Saint-Pierre de Rome, et il a fait la transition parfaite entre le chant grégorien, qui avait plus de 1000 ans de répertoire, donc un énorme héritage, et en même temps la polyphonie, c'est-à-dire les voix qui se mêlent les unes aux autres avec chacune son parcours et qui se mêlent dans la plus parfaite harmonie. Et alors, ce style antico, c'est ça, c'est un petit peu le style de Palestrina. Eh bien, nombreux compositeurs, parmi lesquels Gregorio Allegri, on l'a vu la semaine dernière, mais également Henry Purcell, ont décidé de se plier à cet exercice et de faire une sorte de pastiche, comme s'ils voulaient faire une référence, un hommage à ce style qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus purs qu'ait connu la musique. Voici donc la lecture dans le style antique du Miserere Mei de Henry Purcell. Magnifique référence au style antico fait ici par Henry Purcell, magnifiquement interprété, magnifiquement chanté, avec de la musique aussi simple, aussi stellaire. Évidemment, si je ne vous avais pas dit qu'il s'agissait de ce compositeur, peut-être que comme moi, vous auriez eu du mal à trouver, tellement l'exercice est bien fait. Et on se retrouve finalement dans les pantoufles de la tradition musicale. C'est ça qui est extraordinaire avec la musique, c'est-à-dire qu'il y a à chaque fois une référence plus ancienne. Ici, Purcell fait référence référence à Palestrina qui lui-même fait référence au chant grégorien. Il y a cette espèce de filiation dans la musique qui reste absolument extraordinaire et qui fait que eh bien, les musiciens se répondent les uns aux autres. Et la plus grande réponse que nous allons analyser et écouter aujourd'hui avec grand bonheur, c'est la réponse du Miserere de James Macmillan à celle de Gregorio Allegri. Vous allez l'entendre, une œuvre, enfin que dis-je, une œuvre, un chef-d'œuvre en vérité, absolument extraordinaire. Et c'était pas facile à faire, parce que vous doutez bien que quand vous composez quelque chose avec un passif aussi lourd que celui d'Allegri, eh bien, bien entendu, il s'agit d'une sorte d'Everest à franchir. Et quand on compose ça, évidemment, eh bien, il est dur de pas composer en se disant ce qui s'est fait avant, et en se disant, bah, il faut que je fasse au moins aussi bien. Et honnêtement, je pense que l'exercice est parfaitement réussi. Vous allez pouvoir juger vous-même. Bien entendu, il y a là une forme d'humilité, vous allez entendre, puisque James Macmillan va en fait faire de nombreuses références au Miserere Mei d'Allegri. Il va également faire référence au Grégorien. Voyez donc tout ce que je vous disais depuis le début de cette émission. Les choses s'imbriquent, les références sont faites les unes aux autres, et alors même si là il n'y a pas proprement parlé de style antico, d'ailleurs il n'y en a même pas du tout, il y a ces espèces de références à ces compositeurs anciens et aux grégoriens qui font qu'on s'inscrit dans une tradition du chant catholique, du chant sacré catholique, qui n'est pas démenti, et surtout quand c'est fait avec un aussi grand talent. Alors là, accrochez vos ceintures parce que vous allez écoutez une œuvre absolument magique. Moi, quand je l'ai entendu, ça a été un véritable choc. Déjà, auditivement, parce que c'est extrêmement difficile à chanter. Vous allez l'entendre avec des artifices vocaux. On est dans la période contemporaine. Mais en plus de ça, d'un point de vue musical à proprement parler, vous allez le voir, j'ai essayé de prendre quelques notes pour vous faire entendre mon analyse de l'œuvre. Alors, on va pas faire du solfège de façon très poussée, mais vous savez que j'aime bien vous donner quelques petites clés de lecture afin que vous soyez pas démunis, notamment lorsqu'on écoute de la musique contemporaine. Alors je vais vous livrer les choses comme je les entends, et ça vous permettra peut-être de comprendre les choses, en tout cas comme je les entends moi. Ça ne veut pas dire que ça fait école, mais peut-être que ça pourra vous aider. Alors James Macmillan, tout d'abord, on va parler un tout petit peu de lui, il n'y a pas grand chose à dire de lui. Il est assez intimiste, hein. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, bien qu'il ait composé de très nombreuses pièces. Il est né le 16 juillet 1959 en Écosse, et c'est un compositeur qui là aussi a travaillé avec la royauté, puisque lors de la reconstruction du Parlement écossais, eh bien, il a composé une œuvre en fanfare qui a accompagné la reine Elisabeth II dans la chambre du Parlement. Comme quoi, effectivement, il y a toujours cette relation entre la couronne britannique et ses plus grands compositeurs. Donc, il a écrit de nombreuses œuvres, certaines qui sont religieuses, d'autres absolument pas. Donc, là aussi, un compositeur éclectique, comme vous avez pu l'entendre avec Purcell. Et avant de pouvoir nous jeter dans cette musique, j'aimerais pouvoir vous rappeler effectivement ce que vous avez pu entendre. Alors peut-être que ce qui serait intéressant, c'est que vous réécoutiez le Miserere d'Allegri pour vous remettre dans le bain et voir ce à quel point l'œuvre là va être importante. Voici donc l'analyse que j'en fais. Elle est assez brève, hein, vous m'en pardonnerez, mais elle permet de mieux comprendre, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors on commence tout simplement par un chœur d'hommes, qui là aussi est assez symptomatique de ce qui se faisait à une certaine époque de l'Église. Aucune référence, je pense, assez ancienne, avec des accords parfaits, et peu à peu, on a une sorte d'horizontalité qui va se mettre en place, avec des harmonies très calmes, qui va être contrebalancée par des petites appoggiatures. Les appoggiatures sont des petites notes presque accidentelles qui viennent rehausser un petit peu comme un petit éclat de lumière qui vient déranger l'ordre établi. Vous allez entendre, les appoggiatures vont être là dans toute la pièce. On peut penser aux échardes sur le bois de la croix, on peut penser au fait de regarder un petit peu vers le ciel, un petit peu gêné par ce qu'on peut observer, notamment le Christ en croix, et c'est ça qui va nous suivre tout au long de l'œuvre. Et ensuite, ces voix d'hommes vont laisser place à des voix plus aiguës qui là vont être dans une atmosphère carrément inquiétante. En fait, on va rentrer dans quelque chose là de beaucoup plus dur avec le texte du Miserere Mei, qui là aussi est un texte qui est bien difficile, parce que vous doutez bien que quand on parle de musique, c'est toujours pour mettre en œuvre les paroles. C'est ça qui est le plus important et qui est si bien fait ici. Et en fait, cet artifice dès le début font qu'on va du grave vers l'aigu, comme si on avait ce souffle, comme si le Christ rendait l'esprit. Alors certes, les paroles du psaume sont pas les paroles du Christ, mais il est difficile de pas faire une petite allégorie entre les deux. Je pense qu'en tout cas, ça peut s'y prêter. Et ensuite, Exactement comme chez Allegri, il y a en fait une alternance des versets. Donc au début, ça se fait entre les hommes puis les femmes, et enfin ils viennent se réunir dans un grand unisson, vous allez entendre, qui est très très beau et qui là aussi laisse la musique comme quelque chose de très très matériel. Vous allez entendre, c'est presque palpable. Et ensuite, la référence au grégorien arrive avec une alternance homme-femme, et le grégorien est suivi d'une harmonisation contemporaine, ce qui donne une grande impression de contraste avec une forme de polychorale. Comme si vous aviez ces réponses entre ces différents chœurs qui se faisaient. Donc c'est une référence à peine cachée au Miserere d'Allegri, qui lui-même avait déjà pris cette alternance de grégorien et de polyphonie. Et ensuite, après cette référence au grégorien, on revient à la polyphonie et on reconnaît le thème qu'on a esquissé dès les premières mesures de cette œuvre, et les retards se mêlent aux appoggiatures. Ce sont là aussi des artifices qui sont un petit peu plus doux que les appoggiatures, qui viennent un petit peu caresser l'oreille avec une forme de tension et de résolution qui là aussi sont avec beaucoup d'alternance. C'est une pièce qui comporte de nombreux artifices comme ça, alors notamment dans l'écriture contemporaine. Alors vous avez des changements de mesure qui sont assez fréquents, de style, je l'ai dit, avec des références au grégorien et des choses plus contemporaines, de voix avec des trémolos, par exemple la voix qui va se mettre à vibrer, des larges ambitus, des appoggiatures, je vous le disais. C'est quelque chose qui fait un grand plaisir dans la musique, parce que là aussi on entend tous ces artifices vocaux. Ensuite, on a bien entendu le grégorien qui va revenir, cette fois-ci avec des bourdons, comme si on mettait des voiles au-dessus de la musique. Et enfin, le grégorien va laisser place à une fin, mais alors extraordinaire, complètement planante, avec un très large ambitus, c'est-à-dire des graves très graves et des aigus très aigus, avec là aussi une reprise du thème, et avec une envolée dans les voix aiguës, notamment les ténors et les sopranes, bien sûr, qui là crient. On a toujours peut-être cette référence à rendre l'esprit, à crier vers le Seigneur, peut-être crier aussi vers une forme d'injustice qui est assez extraordinaire. Et ensuite, et à la fin, on retombe sur ses pattes. La boucle est bouclée, on a une fin, juste la fin, qui se fait dans le style antico. C'est même d'ailleurs presque la même fin que celle du Miserere d'Allegri, c'est assez extraordinaire, comme si effectivement, eh bien, on retournait dans cette tradition musicale si particulière, si extraordinaire. Donc voilà, c'est un large panorama que je vous fais de cette œuvre. Ces clés de lecture sont là pour que vous puissiez comprendre ce qu'a tenté de faire le compositeur. Moi-même, sur la période contemporaine, vous savez, on peut y aller de son commentaire un peu tous et chacun. Ce ne sont que mes rapports avec cette musique-là. Peut-être que je me trompe, peut-être même que je fais des contresens. Mais bon, quand on étudie la musique, il est vrai que parfois, il y a certaines clés de lecture que l'on peut comprendre, et c'est pour ça que je voulais les faire partager avec vous. Donc, je vais arrêter de parler, j'ai déjà beaucoup trop parlé. On va laisser place à la musique. Retenez ces symboles-ci, cette élévation du grave vers l'aigu, cette alternance entre les différents chœurs avec la polyphonie et le grégorien, et cette fin si calme, si paisible, qui vient rassurer les tourments que nous avons eus tout au long de l'œuvre, tourments qui étaient matérialisés par ces appoggiatures, par ces trémolos et par ces difficultés. Parfois, vous avez même carrément de la polytonalité, c'est-à-dire que vous avez un ton qui est chanté par des voix et d'autres voix chantent dans une autre tonalité. C'est d'ailleurs extrêmement dur à chanter, et bien entendu ça dérange l'oreille, et c'est le but de cette musique là aussi, c'est d'être capable de déranger vu la teneur du texte. Voilà pour cette présentation de ce Miserere de James Macmillan. Place à la musique, place au chef-d'œuvre. voilà pour cette œuvre si magique. J'espère que vous avez apprécié cette réponse de James Macmillan à Gregorio Allegri, un chef-d'œuvre qui en répond à un autre. Voilà pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point L'Orgue. D'ici là, portez-vous bien.